Sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez aujourd'hui avec moi en studio, deux invités. Benoît Véry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête des éditions La Contre-Allée. Ça ?
Oui.
Voilà, je suis un moment de doute parce que je vous vois hésiter.
Je réfléchissais à la notion de à la tête des éditions La Contre-Allée. C'est surtout une équipe.
Voilà, mais c'est une aventure collective et donc c'est très bien. On va pouvoir aussi parler de votre équipe, bien sûr. Et avec vous, dans ce studio, il y a Yann Dissez. Alors Yann Dissez, je ne sais toujours pas dire exactement votre intitulé de mission. Donc vous êtes chargé de mission, livre, acyclique, agence régionale. Mmh. Pour le livre et l'image et la culture.
Et la culture numérique, tout voilà. À fait. Je m'occupe de la vie littéraire, en effet, dans cette région.
Voilà, je me suis fait une petite anti-sèche. Alors, avant de revenir sur les éditions de La Contre-Allée, peut-être qu'on peut expliquer, messieurs, quel bon vent vous amène et pourquoi diable les éditions de La Contre-Allée se retrouvent ici en région Centre-Val de Loire.
Alors, c'est une histoire qui remonte à quelques années, d'une rencontre à la fois avec les éditions de La Contre-Allée par l'intermédiaire d'un auteur que nous avons en commun, que j'ai eu l'occasion d'accueillir en résidence dans une autre vie et dans un autre lieu, qui s'appelle Lucien Suel.
Ah oui.
Qui est quelqu'un voilà, que j'aime beaucoup, dont je me sens très proche, et qui m'a un jour, alors que je l'accueillais en résidence, parlé de cette maison d'édition où il a été édité. Il est lui-même du côté de Lille et il m'a raconté un petit peu ce que faisait cet éditeur en question que je ne connaissais pas, me disant qu'il organisait aussi des résidences d'auteurs, etc. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose quand même d'intéressant là. Il y a un modèle qui échappe à la représentation un peu que je peux avoir des éditeurs classiques. Ça c'était une première chose. Et puis la seconde, c'est un certain nombre d'échanges que j'ai eu l'occasion d'avoir aussi avec des éditeurs, et notamment l'un d'entre eux qui s'appelle Laurent Covet des éditions Aldante, là aussi il y a quelques années, qui me disait mais en fait les auteurs ils bénéficient d'aide, ils sont en résidence, ils sont accueillis, etc. Mais nous les éditeurs on n'a jamais le droit à rien. Et je me suis dit en fait tiens, c'est pas idiot ça, c'est vraiment pas idiot, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'inventer quelque chose qui pourrait être une résidence d'éditeurs, et voilà un petit peu l'origine du projet. Et puis ensuite le dialogue s'est instauré, on s'est rencontrés avec Benoît, j'ai eu l'occasion de découvrir aussi ce catalogue qui depuis s'est énormément développé, et voilà, il y a des affinités qui se sont créées et on s'est dit il y a un moment, essayons d'inviter, d'accueillir un éditeur et de lui permettre à la fois d'avoir du temps pour s'extraire un petit peu aussi du quotidien de sa maison d'édition, mais pour tisser aussi des relations avec les éditeurs et les professionnels du livre du territoire, et de créer des échanges, des frictions et de mettre en partage un certain nombre de problématiques communes. Voilà.
Vous voulez réagir, peut-être, Benoît Véry, sur ce qui vient d'être dit ?
Je peux réagir en étant très heureux d'être là, hein, parce que cette invitation elle est quand même assez originale en soi. C'est vrai, il y a pas mal de projets de résidence en France pour tout le monde, et aujourd'hui se retrouver dans cette situation d'essayer d'inventer finalement ce mode de résidence d'éditeur, on ne sait pas bien ce que ça peut vouloir dire encore, mais ça se résume assez bien dans ce qui se dit, ce que nous dit Yann. C'est vrai, finalement, c'est vraiment lié à la notion de rencontre, de réseau, d'imaginer des procédés. C'est bien le propre de l'édition, finalement, d'essayer d'imaginer des formes. Et puis, cette opportunité de, finalement, d'être toujours submergé de choses à faire, mais d'essayer de les faire d'un autre endroit. Et ce déplacement-là, quand même, il est assez salvateur. Ça offre une autre perspective pour appréhender des problématiques qui sont liées à notre quotidien, en fait. Et moi, ça m'aide beaucoup, ça, en l'occurrence. Ça m'aide beaucoup à imaginer comment faire fonctionner cette maison de manière un petit peu plus... enfin, en tout cas, de la faire évoluer, quoi.
Et alors, est-ce que vous pensez que ça vous permet aussi de vous décentrer, de ne pas être identifié uniquement comme un acteur, un éditeur de territoire? Est-ce que ça vous permet de...
Qu'est-ce qu'un un éditeur de territoire ou un acteur de territoire?
Ah, bah dites-moi, qu'est-ce que vous pensez?
Moi, ce que je peux dire de notre histoire, c'est que, en tout cas, oui, ça m'aide énormément à me décentrer tout le temps, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut cultiver en soi. Quand je dis décentrer, c'est-à-dire essayer de trouver un autre point de vue que ce que l'on cultive habituellement. Ceux-là, on les connaît bien, on est plutôt sécurisé avec. Donc se décentrer, c'est finalement s'exposer à un minimum de risques. C'est en tout cas l'attitude qu'on essaie d'avoir que lorsque l'on reçoit un texte le matin et de se mettre, essayer de trouver la solution pour se mettre face au texte et non pas d'amener le texte à soi. Et bien là, dans ce genre de rencontres que l'on peut mener avec l'équipe de Cyclique, c'est un petit peu ce qui se passe en fait. C'est une somme de rencontres, d'opportunités pour essayer de nouer une relation, faire circuler des idées et il faut définitivement se décentrer à chaque fois pour se rendre disponible.
Est-ce que vous avez l'impression en fait que votre profession d'éditeur est à quelque chose d'un peu isolé? Est-ce que vous vous sentez parfois isolé en tant qu'éditeur?
Oui, isolé en tant qu'éditeur, oui, je pense que c'est un peu structurel cette histoire-là. Ce sont des métiers où les équipes sont souvent un peu réduites, on travaille quand même assez souvent seul. Donc toutes les opportunités pour rencontrer du monde, en tout cas pour moi, sont plutôt les bienvenues. Le problème étant que rencontrer du monde, c'est pas tant la difficulté, c'est de réussir à se rendre disponible lors de ces rencontres, tout en assurant finalement le quotidien de cette maison qu'il faut tenir, parce que le quotidien d'une maison d'édition, c'est finalement un regard sur le passé, c'est le temps présent qui est extrêmement prégnant, et ne jamais perdre de vue qu'il faut regarder à 1 an, 2 ans devant soi finalement. Pour que les choses fonctionnent. Donc c'est une tension permanente et un aller-retour dans le temps comme ça qui se fait, qu'il faut cultiver, entretenir, tout en ne se perdant pas.
Est-ce que vous voulez préciser le rapport au temps quand on est éditeur?
Pour moi, le temps, c'est quoi? C'est si on en reste à l'histoire d'un texte, c'est quand je reçois un texte, j'essaie de comprendre d'où il vient en fait. Donc, est-ce qu'il s'inscrit dans quelque chose? Est-ce qu'il y a un historique par rapport à ce texte? Et quelle perspective? Qu'est-ce qu'il ouvre? En quoi il réagit par rapport à une actualité, un temps présent? Comment la forme évolue? Est-ce qu'elle raconte quelque chose de l'époque dans laquelle on s'inscrit? Est-ce qu'elle fait signe ou quelles sont les références dans le texte qui pourraient être cachées? Quelles sont celles que je ne vois pas, découvre pas? Enfin. Donc c'est ça le temps pour moi. On parle beaucoup des lacunes, par exemple, quand on parle d'édition, de rayon, c'est-à-dire tous les ouvrages qui sont plus disponibles. Par exemple. Eh bien, ça c'est un travail qu'on peut faire, nous, par ailleurs. C'est-à-dire que par rapport à ce que nous publions, on peut questionner les éditions antérieures pour voir s'il y a une réédition à faire importante par rapport à des questions qui nous semblent pertinentes à soulever. C'est ça, voyager dans le temps, en fait. C'est finalement regarder ce qui a existé. Et quand on parle de mémoire, puisqu'on parle de quelque chose de passé, la mémoire c'est quand même très très présent, c'est quelque chose qui nous environne au quotidien, ça. On vit avec quelque chose de cet ordre-là, donc c'est ça pour moi. Je sais pas si c'est très précis comme réponse, mais c'est mon curseur à moi, il évolue tout le temps entre hier, aujourd'hui et demain, quoi. Je passe mon temps dans cette navette, quoi.
Comment vous faites alors pour pas vous perdre entre tous ces espaces-temps que vous traversez?
C'était notamment un des enjeux, cette résidence. Parce que s'il y a bien quelque chose qui vous empêche, je pense, mais ça c'est pas propre à l'édition, ça c'est propre à toutes les personnes qui sont confrontées à leur quotidien et qui doivent répondre finalement instantanément, souvent à moult questions. Cette résidence, le fait de pouvoir s'extraire un tout petit peu de ces flux, eh bien, c'est l'occasion un petit peu de réorganiser un petit peu ses pensées, réorganiser mon travail, le voir avec une distance un petit peu plus... un peu moins, un peu plus ou un peu moins, en tout cas, sortir du feu de l'action. Ou comme depuis hier, finalement, on ne cesse de rencontrer encore une fois du monde. Les deux précédents séjours, c'était une succession de rendez-vous. Mais ce sont une somme de rendez-vous qui remettent en perspective et qui résonnent par rapport à mon activité au quotidien. Ça fait que, finalement, toutes ces rencontres m'aident à solutionner mes problématiques au quotidien. Et offre des perspectives finalement à ma maison et à son quotidien. Je sais pas si c'est assez clair ça, mais en tout cas c'est comme ça que je le vis. Et c'est les mots que je viens de trouver à l'instant pour essayer de répondre à cette question.
Mais ouais, je trouve ça, si je peux me permettre d'intervenir, merci, je trouve ça très juste ce que dit Benoît sur cette question de résidence. C'est un peu, comme je disais, une première, cette résidence d'éditeur. On expérimente quelque chose de relativement inédit, mais je retrouve dans ses propos ce que peuvent en dire les auteurs. Est-ce que, au fond, ce qui fait le sens des résidences, plus classiquement d'auteur, c'est-à-dire cette notion de rencontre avec des acteurs d'un territoire, cette notion de temps qui est absolument centrale. C'est-à-dire comment, à un moment donné aussi, trouver une autre temporalité, ralentir le rythme, trouver un temps hors du temps, disaient certains auteurs. Et puis cette notion de déplacement qui permet aussi la rencontre et qui permet à la fois de nourrir la réflexion, le projet d'une maison d'édition, mais aussi d'irriguer un territoire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une forme de porosité, de transmission et d'échange qui se crée, qui fait que voilà, il y a un certain nombre de rencontres qui vont être organisées et qui vont permettre, et qui existent déjà. Là, on est plutôt dans des rencontres préparatoires, donc pas forcément des rendez-vous publics, mais les rendez-vous publics vont arriver assez vite. Et en tout cas, déjà, toutes ces rencontres préparatoires, on voit bien que voilà, c'est des discussions, c'est des échanges, et ça fait déjà travail, ça met au travail un certain nombre de notions et de réflexions qui sont extrêmement importantes. C'est déjà très, très vif.
Alors vous êtes en quelque sorte un sportif de haut niveau, alors avec toutes ces rencontres qu'il faut faire, plus là, ça demande une énergie intellectuelle folle, tous ces déplacements intellectuels et physiques, qu'est-ce que vous en pensez ? Le projet de résidence, c'est épuisant aussi, en même temps, ça vous... Je ne veux pas dire que ça répare, n'exagérons rien, mais en tout cas, ça a fait avancer d'autres choses.
De toute manière, ça régénère, ça, il n'y a aucun doute. Mm. Parce que épuisant, oui, enfin, tout ce qui est épuisant, finalement, c'est quand l'ennui commence à vous gagner, déjà, et donc forcément, tout devient un peu fastidieux, et le quotidien de n'importe quelle personne qui mène des projets, eh bien, il est forcément chargé, plein d'imprévus, donc voilà. La grande joie de cette résidence, c'est que finalement, ça cultive ce sentiment de réception, de se rendre disponible, encore une fois, la rencontre, sinon ça ne sert à rien d'y aller. Mais je crois qu'on découvre assez vite tout ça, que finalement, on trouve toujours une solution à mille problèmes en se trouvant à quelques distances de ces problèmes-là. Donc, on ne perd en aucun cas, je perds mon temps ici, par exemple, vous voyez, parce qu'en parlant, ça me fait réfléchir. Hier soir, sur cette conversation que j'ai pu avoir avec Yann, j'ai compris quelques petites choses de mon séjour ici. Enfin, plein de choses comme ça qui s'éclairent. Donc oui, l'énergie après par rapport à cette succession de rendez-vous. Mais c'est pas que des rendez-vous, si vous voulez. La semaine dernière, c'était d'autres choses. Cette semaine, c'est ici. La semaine suivante, c'en est d'autres. L'important, c'est finalement de savoir pourquoi on est là, parce que c'est pas une multiplication des projets qui partent dans tous les sens, c'est une multiplication d'opportunités qui vont dans le même sens. Vous voyez, et tout ça donc nourrit le même désir, les mêmes propositions, le même finalement m'aide à solutionner tout ce que j'ai à essayer de faire avancer, parce que je suis pas seulement quelqu'un qui doit trouver des solutions à des problèmes, c'est quelqu'un qui accompagne des gens qui essayent de résoudre eux-mêmes des problèmes. Je pense à des auteurs qui travaillent sur des textes, à des gens qui travaillent sur différents projets. Il y a des enjeux littéraires chez nous, mais c'est une maison d'édition. Alors une maison d'édition, ça a aussi d'autres problématiques de diffusion, de reconnaissance, de rencontre de... Toutes ces personnes qui œuvrent à la diffusion des idées, et elles sont nombreuses, ces personnes. Il faut les rencontrer, on ne travaille pas seul, en fait. On ne peut pas travailler seul. Enfin, c'est même une hérésie que d'y penser. Personne ne peut rien seul.
Merci de le rappeler, c'est important.
Oui, bien sûr. Ouais.
Alors, je propose, messieurs, pour qu'on ne cède pas à l'ennui, dans ce studio de Radio Campus Tours, d'écouter Alain Bashung, Aucun Express. Oui, parce qu'il me semble, Benoît Véry, voilà, que c'est...
Oui, c'est pas une mauvaise idée, ça.
Ouais. Alors, écoutons ça et on se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tours. We'll be right back.
Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun Concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va, sinon toi. Aucun trolley ne me tiendra si haut perché. Aucun vapeur ne me fera fondre. Des escalators aux chariots ailés, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les bergers, délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Aucun landau ne me laissera bouche bée. Aucun Valhalla ne vaut le détour. Aucun astronef ne s'y attarde. Aucun navire n'y va, sinon toi. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les bergers, délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun Concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va, sinon toi. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les bergers, délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté.
Sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne et je suis toujours en compagnie de mes deux invités, Benoît Vérille et Yann Dissez. Alors messieurs, pendant cette pause musicale, vous vous exclamiez merveilleux, fantastique. Alors, est-ce que vous voulez nous parler un peu de Bachung tous les deux? Pourquoi vous aimez autant cette écriture?
Oh Yann, vas-y.
Ah, j'allais faire la même, c'est compliqué.
Ah bah nous on a choisi, c'est fait.
C'est compliqué, mais parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui a à la fois une classe énorme, une présence scénique absolument incroyable. J'ai eu la chance de le voir malheureusement une seule fois en concert, mais c'est un souvenir quand même incroyable. Et puis un talent de de compositeurs, de chanteurs et des paroliers extraordinaires. Enfin, c'est des textes absolument, absolument magnifiques, parmi les plus, de mon point de vue, les plus beaux textes de la chanson française aujourd'hui. Voilà, je sais pas trop que dire de plus. C'est compliqué, hein, comme question d'exprimer son admiration pour ou son voilà, pour un chanteur, mais ce serait quelque chose de cet ordre-là. Ouais.
Et puis vous mentionniez aussi une série de 10 épisodes.
Oui, voilà.
Alors, ce que vous voulez dire pour nos auditeurs qui seraient curieux d'Alain Bachung, c'est quoi ce...
Pour entendre les voix, il faut écouter ses émissions. C'est une émission intitulée De l'aube à l'aube. On le retrouve assez facilement. Et vraiment, si on a envie, on est pressé, on veut, alors on peut les podcaster, je pense, assez facilement. Mais on peut aussi les lire parce que ces entretiens ont finalement été publiés par les éditions Page à Page, si je ne me trompe, l'année dernière. Donc on retrouve l'intégralité de ces entretiens, c'est in extenso, dans les éditions. Donc de l'aube à l'aube, les éditions Page à Page. Je fais beaucoup de publicité, hein, vous voyez, voilà. Pour d'autres maisons.
Et puis les enregistrements sont podcastables sur France Inter. Ce sont des émissions qui ont été produites par France Inter il y a quelques années. Effectivement, une série de 10 émissions d'une heure à peu près qui retracent la vie d'Alain Bachung, de son enfance dans l'Est de la France jusqu'à, pas jusqu'à la fin, parce que c'était quelques années avant qu'il ne décède. Mais voilà, on a quand même... un espèce de parcours dans sa carrière de chanteur à travers sa propre voix et puis les voix de musiciens qui l'ont accompagné comme Rodolphe Berger, de ses paroliers Bergman et Fauck notamment, mais aussi pour le dernier, évidemment le nom va m'échapper, qui était le chanteur de Louise Attaque. C'est absolument passionnant à écouter.
Voilà, et comme rien n'est jamais gratuit en ce bas monde, si on a écouté Bachung, c'est qu'il y a quand même, un lien avec les éditions de la Contre-Allée, avec le nom des éditions, est-ce que vous voulez...
C'est délaissant les grands axes, j'ai pris la Contre-Allée, définitivement, c'était l'idée de dire de là où on regardait les choses déjà, la façon dont on avait envie de les appréhender aussi, cette notion de temps, de vitesse, voilà, tout ça. Et puis c'est le clin d'œil à Bachung pour ceux qui le voient... ils entendent ça, mais parce que pour moi Bachung c'est quand même une école d'inventivité, c'est vraiment quelque chose d'incroyable chez lui. Donc ouais, on se met dans cet axe là, en tout cas dans cet héritage là. Et puis je sais pas moi comment vous dire, on écoute Bachung de temps en temps parce que tous les jours c'est terrible à écouter, donc de temps en temps et ça nous fait un bien fou.
Alors maison d'édition créée en 2008, la Contre-Allée, 40% de traduction. Qu'est-ce que vous aimeriez dire sur votre maison d'édition? Parce qu'on n'en a pas vraiment parlé encore pour le moment.
40% de traduction, ça, finalement, on l'a appris il y a peu. Quelqu'un qui est venu un peu regarder ce que l'on fait. Non, parce qu'on n'a pas calculé, on l'a appris. On le fait par essence, si vous voulez. C'est qu'on a monté cette maison il y a maintenant un peu plus de 10 ans avec mon amie Marielle Leroy. Avec cette volonté première de traduire, de faire traduire en tout cas. Voilà, et de travailler autour de la littérature contemporaine et française et étrangère.
Voilà, donc il y a des analystes en catalogue de maisons d'édition en fait.
Oui, il y a des gens qui s'intéressent à ça, et heureusement, parce que le quotidien vous empêche des fois de voir un petit peu tout ce que vous avez fait. Mais c'est vrai, on a fêté les 10 ans l'année dernière, et en faisant ça, on a réfléchi. Finalement, ça nous a amené à regarder où nous en étions. Entre cette volonté première de monter cette maison, de publier des textes, de monter des résidences, d'essayer de réfléchir, de monter un projet où on essaie de sourire aussi. Et puis 10 ans après, qu'est-ce qui se passait en gros, quoi? Est-ce qu'on est complètement hors champ ou est-ce que finalement on est dans l'axe finalement qui nous enthousiasmait du départ? Alors on a réfléchi à ça, ça nous a permis de faire une forme de catalogue, et ce catalogue on avait envie de le réfléchir aussi en nourrissant un peu l'histoire, donc on en a fait une forme de revue finalement, donc là on s'est amusé beaucoup, mais ça nous a obligé à réfléchir à la façon dont les choses se sont organisées, et puis des personnes nous ont retrouvé un peu plus tard, et se sont dit la traduction chez vous c'est important, c'est vrai c'est important, on pourra parler d'autre chose, un festival qu'on mène, tout ça, mais on n'avait pas pris conscience que ça représentait autant de place dans le catalogue au final, voilà. Mais ça signifie finalement que l'intention première est finalement, elle est respectée. et puis qu'on travaille sur des langues qui sont pas nécessairement très rares, mais qui sont plutôt rares. Il n'y a pas de traduction anglo-saxonne dans le catalogue, par exemple. D'autres font ça très bien. Oui, voilà.
Voilà, donc on trouve des auteurs d'origine espagnole, argentine, mexicaine, cubaine, japonaise, grecque, italienne, tchèque et polonaise. J'en oublie sûrement, mais voilà, pour dire la richesse des auteurs que vous pouvez proposer. Et alors cette équipe, vous l'avez dit, hein, il y a Marielle Leroy aussi dans cette équipe. Il me semble que vous êtes trois personnes, trois permanents, c'est ça ?
Oui, alors il y a trois personnes permanentes dans cette maison, c'est un fait. Moi donc, Anna Rizzello, qui m'accompagne sur l'éditorial, mais aussi tout le travail autour de la mise en œuvre et l'animation d'un festival, qui s'appelle D'un pays l'autre, donc autour de la traduction. Bénédicte Crevelier, qui nous a travaillé avec nous sur... préparation de texte, assistance éditoriale. Mais ce serait mentir que ces trois personnes-là, en plus de Marielle Leroy, suffisent à faire vivre cette maison. On a une personne qui travaille beaucoup auprès de nos amis libraires, Aline Connabel. Une autre qui travaille beaucoup sur la presse, Aurélie Serpati-Berkoff. Ouais, ce sont des gens qui sont des relais importants pour nous. Mais les maquettes, on y apporte un soin, en tout cas on essaie d'y apporter un soin tout particulier. Donc voilà, Valérie Dussard qui fait toutes les maquettes de la maison, qu'on peut appeler à toute heure de la nuit et du jour, pour faire déplacer une virgule 12 fois, quelqu'un qui n'est pas du tout, et qui sourit à chaque fois, donc quand même. Essayer de sauver une coquille, une extremis, voilà, toutes ces choses-là, ça ne peut se faire que parce que finalement, toute cette équipe, toutes ces personnes ont le même souhait d'essayer de bien faire les choses et d'être réactif, en fait. C'est-à-dire qu'on peut affirmer quelque chose un jour et le remettre en cause le lendemain, en tout cas pour être certain que ça tient debout. Et pour ça, il faut accepter qu'on puisse, des fois, bousculer un petit peu nos quotidiens, nos habitudes, et générer peut-être parfois un peu de contrariété avec tout ça. Mais tout le monde a ce plaisir de travailler en équipe, voilà.
Voilà, l'idée que la contre-allée, c'est une aventure collective, c'est important, puisque j'ai vu que vous réagissiez au début de cette émission, quand j'osais dire voilà, que vous êtes à la tête de cette émission de la contre-allée.
Oui, mais oui, si vous voulez, comment dire, c'est pas pour jouer sur les termes, mais on sait d'où vient cette maison, on l'a montée, cette maison, mais par contre, on sait aussi qui l'a fait vivre, si vous voulez, donc c'est facile de dire que l'on décide de publier un texte, et alors, après cela, comment on fait ? Ça ne se limite pas à ce choix-là. Ça, c'est notre choix. On assume cette responsabilité-là. Mais la première des difficultés ou des intérêts, ce sera déjà de le partager avec les gens avec lesquels vous travaillez. Hein. Donc, ça doit vouloir dire que dans cette équipe, par exemple, d'autres personnes peuvent pointer du doigt un texte et le choisir et avoir envie de le défendre. Et donc, ça, c'est un choix qui est possible dans cette maison. Donc, oui, c'est pas. Voilà. Ce sont des choses qui doivent se faire ensemble. Parce que dès lors qu'on a fait le choix d'accompagner un texte, eh bien, toutes les personnes que je viens de citer là se mettent en branle concrètement pour prendre leur part de travail dans cette réalisation-là. Et puis ça va aller loin, ça va nous dépasser très vite. Il va falloir convaincre tous les gens sur la diffusion et convaincre les gens qui accueillent nos ouvrages avec le sourire aussi, nos amis libraires, d'y prêter une attention particulière pour pouvoir relayer ça auprès de quiconque aura la joie, la satisfaction d'entrer dans une librairie. Voilà, vous voyez, donc, si tout le monde ne se met pas, finalement, de concert pour faire émerger un texte, faire le rendre visible, il ne se passera rien. Donc, je peux tout à fait être dans mon coin, tout seul, à avoir décidé d'éditer un texte à la tête de mes éditions La Contre-allée, mais aussi m'y balader seul, hein, si finalement, je voyais les choses... différemment.
Comment ça se passe quand vous avez des textes qui vous semblent intéressants pour vos éditions ? Est-ce que vous les lisez collectivement ? Est-ce que vous les proposez à tout le monde ? Est-ce que chacun peut lire et donner son avis ? Comment ça marche ?
Oui, je vais chercher des avis, bien sûr, toujours. La première des choses d'ailleurs que j'essaie de faire, bon alors pourquoi choisir un texte? Je crois que vraiment définitivement à chaque fois qu'un texte est sorti de cette maison, c'est parce que en le découvrant, il est déjà venu contrarier vraiment de manière significative le quotidien qui allait se développer dans la journée. Moi c'est le matin que j'ouvre les textes. Donc j'ai toujours forcément, malheureusement, 1000 choses de prévues sur une journée, et quand un texte vient me perturber là-dedans, et que je ne pense qu'à ça toute la journée, c'est un fait, j'essaie d'y retourner vite. Pour moi, c'est déjà souvent un très très bon signe. Et quand il s'avère que tout va bien et que j'ai vraiment le désir de publier ce texte, je vais m'amuser un tout petit peu à me contrarier, c'est-à-dire que finalement je vais essayer de réfléchir aux raisons pour lesquelles il m'a plu ce texte, ou m'interroge, ou me crispe même peut-être d'ailleurs. Donc après je vais essayer de contrarier cet avis en questionnant les gens avec lesquels je travaille, ouais, bien sûr. Je peux même être intimement convaincu de le publier déjà, mais ça n'empêchera pas, voilà. Et ça peut être mis en cause. Je peux aussi changer d'avis sur un texte où j'étais plus en doute. Il faut que je travaille moi aussi des fois par rapport à certaines propositions que je ne comprends pas de suite. Vous voyez, je sais pas comment vous dire ça, ça se passe comme ça. C'est d'abord une affaire de sensible, en tout cas pour ma part, de musicalité, parce que c'est peut-être mon premier filtre, mais je ne m'arrête pas à ça, j'espère ne pas m'arrêter à ça.
Alors c'est quoi un texte contrariant ? C'est quoi être contrarié par un texte ?
Bah, je vais essayer de prendre l'exemple d'un film que vous venez de voir, et puis vous sortez de là un peu douteux, un peu intrigué, pas tout à fait convaincu, mais le fait d'en parler tout de suite avec la personne avec laquelle vous avez assisté à cette projection, finalement tout ce que vous en dites, vous vous rendez compte que ça vous intrigue, ça vous intéresse, ça vous plaît, puis un quart d'heure après vous êtes rendu compte que ce film vous a travaillé de quelque part, il vous a pas pris dans le sens du poil, mais il est venu vous perturber un peu, voilà, c'est ça que j'entends par quelque chose qui doit... Je pense que ça doit servir à ça quand même, un texte, à un moment ou un autre. Il y a nos lectures confort et elles sont tout à fait agréables, c'est pas du tout le souci, ça fait du bien. Mais quand un texte vient vous perturber à ce point-là, je pense que ça... Il faut déjà remercier la personne que vous a adressé ce texte. Voilà, donc, comme pour un film, même histoire.
Ça, c'est un point de vue que vous défendez.
C'est mon point de vue, bien sûr, mais très concrètement, tout ça, c'est une histoire de subjectivité, beaucoup, oui, bien sûr.
C'est bien d'être subjectif.
Ah ben, comment faire autrement ? Yann, comment faire autrement ?
Je ne sais pas, je ne saurais pas le faire.
et alors, vous l'avez évoqué, vous venez des arts de la scène.
Dis donc, pardon ?
Vous venez des arts de la scène, à la base. Vous avez...
Ah oui, c'est une histoire, c'est l'histoire d'avant.
Voilà, donc avant la contre-allée, vous étiez dans ce domaine de compétences-là. Est-ce que c'est la même chose, finalement ? La musique, la traduction, l'édition, est-ce que c'est pas toujours la même chose ? Est-ce qu'on fait pas toujours la même chose ? Est-ce que c'est pas dire ? Est-ce que c'est pas dire des choses, transmettre ? Est-ce que c'est pas toujours pareil ?
Je suis pas certain que ce soit tout à fait la même chose d'être sur un plateau à défendre une forme artistique qui serait sienne que d'être éditeur et d'accompagner finalement ce travail de questionnement des voix et de cette singularité dans la création. Moi, ce que je garde de toute cette histoire-là, de mon histoire à moi, eh bien, c'est ce que j'ai pu cultiver peut-être de l'ordre de l'oreille dont je parlais tout à l'heure, cette musicalité-là. C'est vrai que c'est un prisme pour moi important. En tout cas assez immédiat, voilà, je travaille très vite à l'oreille, mais comme je le sais que je travaille d'abord comme ça, je vais aller chercher, je vais me contrarier dans cette lecture-là, parce que tous les textes ne se révèlent pas de cette manière-là, et donc je vais faire très attention à ça. Je vais essayer de pas me laisser gagner trop vite finalement par un texte qui a un chant un peu trop doux à mes oreilles, quoi, voilà.
Peut-être qu'il y a un lien quand même, alors je sais pas si comment ça s'est articulé, mais une des particularités de ta maison d'édition, de cette maison d'édition, c'est de proposer un certain nombre de duos entre texte et musique. Est-ce que c'est toi qui a impulsé ça? Voilà, c'est une forme que depuis quelques années on voit apparaître en France, des lectures musicales, mais il me semble quand même que parmi les auteurs de la contre-allée, un certain nombre d'entre eux se produisent sur des formes comme ça. Je pense à Thomas Ginereau, Natiot, Amandine Day, voilà.
Et puis plein de poètes.
Et plein de poètes.
Mais oui, alors... Voilà, on n'invente rien, hein, faut pas à cet endroit-là, bien sûr. Mais moi, j'ai par le passé, donc beaucoup joué avec ça, hein. J'ai beaucoup lu de textes sur scène, j'ai beaucoup joué dans des groupes de musique, on s'empare aussi souvent de textes, de littérature, enfin le texte a toujours été là dans mes histoires. Donc musique et texte, concrètement, je pense que j'ai grandi avec ces histoires-là. En développant cette maison, j'avais très envie de tout ça, j'avais très envie de ces rencontres, parce que je les ai toujours trouvées très riches, en fait. Ça fonctionne bien, ça questionne plein de choses. Tu parlais de Thomas Giraud, je pense que Thomas serait heureux de le dire ici, à quel point, finalement, il s'est passé ce qui se passe pour toutes les personnes qui se mettent à lire à voix haute et à travailler sur cette musicalité. Sa respiration, sa phrase a évolué en fonction... on parle toujours de ce fameux gueuloir de Flaubert, mais enfin, finalement, c'est toujours cette histoire de donner le texte dans son oralité et de voir comment ça sonne. Et Thomas a beaucoup avancé là-dessus, entre le premier et le troisième texte, toutes les lectures musicales qui ont pu accompagner la ballade silencieuse de Jackson C. Frank, qui est son deuxième texte. Là, il me l'a souvent dit, ça l'a beaucoup fait avancer. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, on voit beaucoup de manifestations chercher des formes un peu nouvelles, en tout cas, réfléchir à la façon de proposer quelque chose au public, et les lectures musicales ça fonctionne bien, ça. Donc on l'a cultivé, cette histoire-là. On cherche à accompagner tout ça, à faciliter finalement toutes les envies, les désirs de confrontation artistique qui peuvent exister chez les auteurs et chez les musiciens aussi, voilà. Donc ça offre tant aux auteurs qu'aux musiciens des environnements particuliers, des opportunités d'écoute différentes, des opportunités économiques pour vivre aussi, enfin toute une somme de choses. Et nous on se met finalement un peu à ce service-là, on essaie de réfléchir à accompagner ces formes-là et à les motiver aussi. Alors au tout début de la maison, sur le premier texte quasiment, on proposait aux gens de télécharger une adaptation du texte, donc c'était concrètement une lecture du texte adaptée par l'auteur avec un musicien, c'était en téléchargement libre. On peut dire qu'on a essuyé de très beaux flops avec ce genre de choses. On a réitéré ces opérations-là, ces essais-là un peu plus tard. Et puis, ça marche pas mieux sur le plan économique, on va dire, mais sur le plan artistique, sur l'expérimentation, quand même, ça offrait toujours de belles perspectives. Et puis aujourd'hui, bien, on voit finalement de nombreuses lectures musicales exister au sein de cette maison. Et du coup, des auteurs circulaient au sein de multiples manifestations avec cette forme-là. Et ça porte bien le texte. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple. Par exemple, on débutait cette maison, on parlait de Lucien Suel. Merci Yann de parler de Thomas. Yann Suel. Lucien Suel. Et je pense à Thomas Suel, son fils, qui n'est pas anodin dans le parcours non plus. Mais avec Lucien Suel, on a fait ça très tôt. C'est un auteur qu'on avait invité à l'époque en résidence. Travailler un texte, c'est une commande. Et on multipliait dans le temps de sa présence sur un quartier qui s'appelle l'île Five, là où la maison d'édition était installée à l'époque, on multipliait les rencontres chez l'habitant. Et où Lucien était accompagné d'une musicienne, Laure Chailloux, et lisait le temps de cette rencontre, le travail qu'il était en train de réaliser. Et c'est un travail qui émanait des témoignages, des rencontres qu'il avait pu faire sur ce quartier-là. C'était donc une sorte d'écriture en... une sorte de workshop, vraiment quelque chose en cours. Et ces rencontres chez l'habitant lui permettaient de collecter de nouvelles informations. Alors, c'était toujours un petit peu inquiétant, ces rencontres, au départ, pour les personnes qui étaient invitées à y prendre part. Donc, ça commençait par la lecture musicale. Et la lecture musicale avait cette qualité de d'étendre l'atmosphère très très vite et de faire réagir. Je sais pas, c'était tout d'un coup très simple pour les personnes de commenter, de réagir, de même d'intervenir pendant la lecture. Lucien savait accueillir ça en plus très très bien.
Mais du coup, effectivement, je crois qu'il y a, c'est ce qui m'intéresse aussi en t'écoutant, et je crois que c'est aussi la raison pour laquelle à Cyclic, on a eu envie de t'accueillir sur cette résidence éditeur. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une nouvelle façon, je trouve, de concevoir, de penser le métier d'éditeur qui intègre aussi, alors tu parles de la façon dont ça, ça fait jouer le texte, mais je pense aussi à la question de la réception. C'est-à-dire, c'est une autre façon aussi de permettre à un public, à des gens qui n'iraient pas peut-être pas spontanément vers les livres, d'avoir un accès au texte et à la littérature indifféremment. Il y a un espace de médiation qui se joue aussi à cet endroit-là, qui me semble effectivement extrêmement juste.
Ouais, je pense que c'est une forme qui offre plein d'opportunités, tant pour les gens qui sont très près du texte, qui aiment ça, mais qui n'aiment pas en fait. C'est juste qu'on appréhende tout ça comme on le peut, comme on le veut. Cette lecture musicale, en tout cas, offre d'autres opportunités de rencontrer le texte, c'est un fait. C'est aussi d'autres opportunités pour les auteurs de porter leur texte. Mmh. Quand on parle de lecture musicale, faut entendre toujours deux personnes. Il y a deux personnes sur le plateau, donc la forme, elle peut elle-même évoluer au sein de ça. C'est une réécriture parfois. Plein de choses se passent, en tout cas. Voilà. C'est de l'ordre du champ de la création, et cette création, elle est assez immédiate. En plus, lecture musicale dit spectacle quand même vivant, quelque part, un peu. Donc il peut se passer plein de choses. Ça met les gens dans une situation très particulière qui crée cette connivence, en tout cas cette opportunité de rencontre. Assez vite avec pas le public, parce que je sais pas si on peut parler de public, mais enfin en tout cas les personnes présentes, voilà, ouais. Parce que les contextes peuvent en plus être très très particuliers. On peut être 12 dans une cuisine et 50 ou plus ou 100 dans une salle de spectacle, enfin voilà. Encore une fois, les environnements font beaucoup aussi dans la capacité à dans l'opportunité de rencontrer ou pas.
Mais alors, admettons qu'un format lecture radiophonique, ce serait encore autre chose d'ajouter à la lecture et à la musique la dimension radiophonique.
Ce serait ?
Je ne sais pas. J'imagine que ce serait encore une autre forme.
Je ne sais pas. Moi, ce qui me fait rêver, c'est petite balade chez nos amis éditeurs en Allemagne et tomber de sa chaise en voyant que sur les murs, il y a des disques d'or. Disque d'or de livres audio.
Ah oui.
Et ça, comment dire, ça se voit pas à la radio, mais moi ça me fait frissonner cette histoire-là, parce que ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent des livres audio. Mmh. Et puis quand on entre dans les librairies là-bas, eh bien on se rend compte que ça fait partie, c'est culturel cette histoire-là. Voilà, les auteurs sont invités à lire leurs textes, et les gens viennent pour écouter les auteurs lire leurs textes. Donc on entend cette oralité du texte, elle est très très présente là. Mmh. Et faire lire des auteurs à la radio, on sent. Faites lire des auteurs à la radio tout le temps, quoi.
Mais moi, je suis pour. Bons entendeurs, s'il y a des voilà. auteurs qui veulent venir lire à la campus, n'hésitez pas.
Il faut
pas.
Donner l'adresse.
Alors, vous trouverez tout ça sur
Et où est cachée la sonnette pour entrer.
Voilà. La sonnette est latérale. Donc, il n'y a pas de message secret. La sonnette est vraiment sur le côté du mur. Messieurs, je vous propose de faire une seconde pause musicale et nous allons écouter, eh bien, l'épée. Voilà.
Ah.
Voilà. C'était une demande de Benoît Véry qui était curieux de cette musique. Alors nous écoutons l'épée sur Radio Campus Tour et on se retrouve après.
Je me sens bien, je prends
l'épée Springfield 61. Attention, je me lance en anglais. Voilà, donc nous écoutions ça sur Radio Campus Tour. Nous sommes toujours dans la Méridienne avec nos deux invités, Yann Dissez et Benoît Verrille. Alors, Benoît Verrille, quand même, ces éditions de la Contre-Allée, vous avez plusieurs collections. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot de toutes ces collections que vous proposez ?
Oh oui. Alors les collections, hein, quelle question.
Vous y attendiez pas à cette question.
Bon, si, bien sûr. Non mais parce que la vérité, c'est que je m'interroge toujours ces histoires de collections qui aident à, peuvent rendre lisibles certaines choses quand même, orientation, identité, projet, je sais pas, ligne éditoriale des fois. Mais enfin voilà. Ça fait finalement, c'est autant de collections qu'il faut alimenter après, on réfléchit au bon sens là-dedans. Mais bon, je peux vous dire un mot quand même rapidement. Je peux parler, pas toutes les collections, parce que bon. Mais je pense à une collection qui offre une façon particulière de travailler, qui s'appelle Fiction d'Europe. Fiction d'Europe, concrètement, c'est une invitation formulée à des auteurs, que l'on a pu lire en général, et que c'est la raison pour laquelle on s'adresse à eux. Fiction d'Europe, c'est l'idée d'inviter un auteur à poser un regard sur l'Europe, mais par le prisme d'une fiction. Et pour beaucoup des auteurs publiés dans cette collection, ce sont des auteurs étrangers. Et donc quand on parle de commandes, ça peut questionner pas mal de choses. C'est-à-dire que finalement, est-ce que nous sommes en mesure de lire le polonais, le portugais, l'italien, tout ça ? Eh bien, on est surtout en mesure de le lire grâce aux gens qui les traduisent, ces auteurs-là. Et pour que ce projet fonctionne, bon, ce sont des textes qui ne sont pas nécessairement longs, donc il n'y a pas de grand danger non plus, mais pour que le projet fonctionne, il faut qu'il y ait une relation vraiment très sincère et pleine de confiance entre l'auteur et qui le ou la traduit, et nous-mêmes, vous voyez ? Et ça génère des conversations assez folles, et c'est l'enjeu de cette collection, c'est que finalement la somme des auteurs qui y prennent part simule quelque part cette sensation, ce débat en fait, qui nous est nécessaire, qui est assez vital pour nous mettre dans une sorte de perspective. L'Europe, quand on parle d'Europe, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on en veut? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Comment on se situe par rapport à ça? Et les gens qui nous ont amenés finalement à développer ce projet, la MESH, c'est un institut de chercheurs, a eu cette intelligence de nous interpeller là-dessus en disant que c'était certainement peut-être par le prisme de la fiction qu'on allait pouvoir avancer sur ces questions-là. Je souris d'autant plus que il y a un texte d'Arnaud Bertina paru dans cette collection, Des lions comme des danseuses. Qui va les questionner, pour le dire vite, tout ce qui est de l'ordre de la spoliation des biens culturels africains dans les musées européens, et qui, paru en 2015, est de l'ordre de la fiction, et arrivé en 2018, avec tout ce qui a pu se passer, et les questionnements qui ont été, que le rapport notamment remis par Bénédicte Savoie, commandité par le gouvernement actuel, nous dit que finalement cette fiction devient quelque part un peu réalité, donc c'est le statut du texte qui change, c'est vraiment incroyable. Ça nous a permis de faire une nouvelle édition de ce texte, accompagné d'un texte de Bénédicte Savoie aussi. Voilà, c'est cet enjeu, une collection comme ça, c'est pour le coup quelque chose d'assez vivant. Il y a le Olga Tokarczuk, par exemple, qui vient d'avoir le prix Nobel de littérature, qui participe de cette collection, un texte paru en 2016, Les Enfants Verts, qui parle beaucoup de cette notion de centre et de périphérie. Ça, c'est quelque chose qu'elle sait très très bien faire. On entend des gens comme Roberto Ferrucci, mais Roberto Ferrucci, par exemple, donc un auteur italien, qui dans son texte, ces histoires qui arrivent, nous invite vraiment, avec quel geste, à lire Antonio Tabucchi comme étant pour lui l'auteur le plus européen, l'auteur italien le plus européen. Et quand vous lisez ces histoires qui arrivent de Roberto Ferrucci, vous n'avez qu'un désir, c'est effectivement de lire Tabucchi, mais Tabucchi, quand on lit Tabucchi, c'est toutes ces prises de position politique aussi. Donc voilà, Fiction d'Europe, une collection de petits formats, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup, parce que c'est une collection qui nous invite à lire aussi beaucoup d'auteurs. Tous ne sont pas toujours disponibles, ce qui fait qu'on peut lire des fois beaucoup d'ouvrages, essayer de creuser des bibliographies, puis avoir au bout du compte, au moment où on se sent en mesure de formuler la proposition, eh bien un refus cordial, mais refus, et d'avancer comme ça, vous voyez. Un refus, comme pour un auteur qui cherche un éditeur... ça ne doit jamais signifier fin.
que les écrivains, écrivants en devenir nous vous entendent.
Oui, tout le monde doit insister, chercher une nouvelle entrée.
Et peut-être une autre collection, donc on a déjà pu parler de la collection Contrebande quand était venu Olivier Manoni dans cette même émission. Peut-être qu'il y en a une autre dont vous voudriez parler.
Oui, on peut parler de plein de choses, mais Contrebande, c'est bien.
C'est bien Contrebande.
Oui, mais juste pour faire écho...
La dernière année de la maison, quand même.
C'est la dernière année, là, à l'instant, les textes viennent de paraître, un texte de Diane Meur et un texte de Corinna Gepner. Contrebande, mais je tenais à parler de cette collection, c'est vrai, simplement parce que... Elle fait suite, déjà parce qu'elle fait évoluer aussi la façon de travailler dans cette maison. D'autres personnes nous sont associées à cette collection, un collectif de traducteurs aussi. Mais surtout, elle fait écho à un travail que l'on mène depuis quelques années maintenant avec un festival et une somme de rencontres que l'on intitule, nous, « D'un pays l'autre », qui est une manifestation dédiée aux traducteurs et traductrices, à la reconnaissance de leur travail, à ce que ça peut symboliser, et qui a vu le jour, nous... Alors, de manière informelle, très tôt dans la maison, parce qu'on a très souvent invité des traducteurs et traductrices à parler de leur métier et de cette intimité-là. Mais en 2015, dans un contexte politique qui évolue alors, et qui chez nous, par exemple, se traduit par une restriction très très forte de la représentation de la diversité politique et un Front National qui arrive vraiment aux portes de la cité. Et quand on est éditeur, eh bien, ça, c'est pas neutre, ça, pour nous, en tout cas. Donc, nos textes véhiculent une certaine sensibilité, ça, j'entends bien. Mais on avait ce désir, en tout cas, ce désir, de s'impliquer et d'être impliqué très, très, très localement aussi, là où nous sommes, là où nous habitons, là où nous siégeons, je sais pas, on appelle ça comme on veut. Mais de trouver une réponse à ça. Et cette réponse, eh ben, il me semble que la traduction, c'est la plus appropriée. Là où on nous demande de fermer les portes, la traduction ouvre les fenêtres. Et c'est la rencontre, l'incarnation de la traduction pour moi. C'est toutes les opportunités de rencontre. Donc cette nécessité d'appréhender l'autre et tout ce bien, toute cette folie que ça nous apporte. Donc monter cette manifestation à ce moment-là, c'était politiquement certainement pas neutre, mais la traduction c'est définitivement politique. D'ailleurs, comment traduire le neutre en politique aujourd'hui en français? Donc, Contrebande, c'est le prolongement de ce travail, si vous voulez, finalement. C'est de créer, en tout cas d'accompagner ce désir d'une sphère, d'un espace consacré, dédié à ces personnes que l'on voit trop peu souvent sur les couvertures encore, mais ça change aussi, comme quoi rien n'est arrêté et irréversible. Ce sont des gens qui portent quand même beaucoup d'espoir, et donc, avec l'espoir, on arrive quand même à changer pas mal de choses, notamment transformer la fiction en réalité, si besoin, et si la réalité fait sens quelque part. Hein. Donc Contrebande, voilà, c'est nous rappeler que lorsqu'on lit un texte d'un auteur étranger, on lit finalement d'abord la personne qui traduit ce texte. C'est une œuvre de création.
Alors juste une question, il n'a pas vraiment de rapport, mais cette émission touche déjà à sa fin. Comment on distingue un texte qui est écrit comme, à la manière de quelque chose qui est vraiment une voie personnelle? Comment on...
Ah ben, on peut écrire des choses à la manière d'eux en étant tout à fait personnel.
Mais dans les propositions que vous pouvez recevoir, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous distinguez une écriture, une voie vraiment particulière? Qu'est-ce qui fait que vous sentez là qu'il y a une écriture qui n'existe pas ailleurs, en fait?
C'est cette sensation dont je vous parlais tout à l'heure qui fait que vous n'avez pas tout à fait d'explication à l'instant où vous le découvrez, mais qui vous perturbe suffisamment pour dire que déjà quelque chose existe, sans même que vous sachiez d'où ça vient et ce que ça peut bien vouloir dire. En train de lire un texte, je le découvre à l'instant, je le découvre à l'instant parce que je l'ai débuté hier ou avant-hier, j'ai noté son nom tout à l'heure parce que je voulais vraiment vous en parler, ça. Bruno Romori. Le monde horizontal, c'est sorti aux éditions Corti. J'ai entamé ce texte il y a deux, trois jours. J'ai lu quelques pages et ça m'a saisi immédiatement. Je ne sais pas pourquoi encore, mais j'ai vraiment le sentiment que lui, il est en train de perturber la narration. Il est en train de bousculer mes codes, mes références. Et c'est cette sensation-là que je cherche quand je prends un texte édité ou possiblement à éditer, ce premier trouble. J'ai besoin de ce premier trouble parce qu'il va m'obliger à me re-questionner, à remettre en perspective mes petits acquis. Vous voyez, c'est cette chose que je pense savoir et qu'il va falloir re-questionner parce que sinon, la sclérose pointe.
Est-ce que vous voulez répondre, Yann Disseize ? C'est quoi pour vous un texte qui bouscule, qui transforme ?
Je dirais un petit peu la même chose, c'est-à-dire c'est un texte qui pour moi me re-questionne, va re-questionner mon rapport à la littérature en fait, et du coup reprojette un regard sur l'ensemble des autres textes que j'ai pu lire. Ça vient introduire un mouvement dans cette histoire ou une faille, ou une fissure, ou un doute dans cette histoire de lecteur, dans cette histoire qu'on s'est construit soi-même par rapport à la littérature. Voilà, c'est quelque chose qui vient percuter et interroger voilà, soi-même et l'ensemble des autres livres.
Ouais.
Un exemple ?
Comme ça, un brûle-pourpoint, peut-être un texte qui est relativement ancien, mais la découverte. Et je pensais à ça parce qu'il y a un libraire à Tours qui a accueilli la semaine dernière l'auteur du livre dont tu viens de parler, chez Corti. Donc il était présent à Tours pour une rencontre.
Est-ce qu'il a été question de Quignard, par exemple?
Je n'ai pas assisté à cette rencontre, mais tu pourras poser la question au libraire tout à l'heure.
Voilà, librairie, le livre, je suppose.
C'est un libraire, le livre en effet. Et je pensais au texte de la découverte de Joseph Roth et du livre de Job, Job, roman d'un homme simple, voilà, qui est un texte qui m'a absolument profondément bouleversé il y a peu de temps, parce que j'ai découvert dans une nouvelle traduction aux éditions Héros Limite, une traduction de Jean-Pierre Boyer, qui est lui-même un ancien éditeur et qui vit à Tours, voilà, par exemple.
Tu fais bien de parler de cette maison.
Voilà, je pense aussi à la découverte des premiers textes de Christophe Tarkos, par exemple, qui sont là, quelque chose qui déboule dans la littérature, vraiment, voilà, d'une force absolument.
On peut clôturer sur Tarkos. Merci Tarkos.
Merci Tarkos. Alors Yann Disseize, c'est la minute agenda culturel pour Cyclic. Vous vouliez nous annoncer des rencontres à venir?
En effet, autour de cette résidence donc des éditions La Contre-Allée, un certain nombre de rendez-vous, de rencontres sont prévus tout au long de la saison, jusqu'à la fin du mois de mai. Et donc un certain nombre de rendez-vous à destination des professionnels, et puis d'autres rendez-vous à destination du tout public. Et donc je peux d'ores et déjà annoncé une rencontre à la médiathèque de Bourges le jeudi 30 janvier. Il y aura également une rencontre le lendemain à la librairie L'Esperluette à Chartres le 31 janvier. De nombreux autres rendez-vous sont prévus dont les dates ne sont pas encore fixées, mais je peux également annoncer la présence des éditions de La Contre-Allée et de Benoît Véril et d'un certain nombre des auteurs, puisqu'évidemment, il viendra accompagner d'auteurs, voire d'auteurs et de musiciens, notamment à l'occasion du festival Chapitre Nature qui se déroule au Blanc, le week-end de la Pentecôte, les 30 et 31 mai. Voilà. Et je voudrais aussi, du coup, je sais pas, on est moins dans la question de l'agenda, mais dire que on peut trouver les très beaux livres des éditions de La Contre-Allée dans les librairies de la région Centre-Val-de-Loire, et notamment parce que nous sommes sur Radio Campus Tours, à Tours, à la boîte à livres ou à la librairie Le Livre, entre autres, voilà.
Est-ce qu'il y aura des liens avec l'université de Tours dans le cadre de cette résidence ?
Tout à fait. Nous étions ce matin en compagnie de Guillaume Saint-Gall pour préparer deux rencontres, une ou deux rencontres. Alors une première très certainement qui se déroulera le mercredi 29 janvier à l'attention des étudiants de langue et de lettres pour présenter le projet des éditions de La Contre-Allée, échanger avec Benoît Véril et puis parler aussi des collections, notamment de la collection Contrebande. Et puis, on envisage une seconde rencontre qui pourrait avoir lieu ou dans une librairie, ou au sein de l'université, mais en tous les cas en partenariat avec l'université, autour de cette collection Contrebande, avec l'invitation probablement de Corinna Gebner. Date à retrouver, évidemment toutes ces dates sont à retrouver probablement sur, j'imagine, sur le site de Radio Campus Tours, mais également sur le site livre de Cyclic. Il y a une page qui est dédiée à la résidence d'éditeur de la Contre-Allée, sur laquelle au fur et à mesure de l'avancée du calendrier, les dates seront indiquées.
Merci Yann Dissez et Benoît Véry d'être venus dans la Méridienne sur Radio Campus Tours. Et on va se quitter avec une musique. Cette fois-ci, c'est moi qui choisis. Et d'autorité, je mets Anne Sylvestre, Les gens qui doutent. Je vous souhaite à tous une très bonne journée à l'écoute de nos programmes.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.